Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Jean-François Lisée.
On va juste dire qu'on est d'accord.
Thomas Mulcair.
Je te donne 100% raison.
La rencontre.
C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
La rencontre. Lisée. Mulcair.
Alors, Jean-François, c'était une idée du PQ, ça, le cours d'éducation citoyenne.
Oui, c'est, je l'avais introduit dans ma course, dans ma première course au leadership, effectivement, parce que à l'époque, il y avait de la critique sur le cours éthique et culture religieuse. Il faut dire que ce cours-là remplaçait les anciens cours de pastoral et faisait en sorte qu'il y avait ce cours-là pendant toute la période scolaire, c'est-à-dire toutes les années du primaire, toutes les années du secondaire, et ça faisait une, même si on peut être d'accord pour initier nos enfants à la question religieuse, à la diversité religieuse, ça faisait en sorte qu'il y avait un genre de prédominance du fait religieux dans la totalité du parcours scolaire. C'était vraiment excessif. Et donc, il y avait de la demande pour mieux enseigner à nos enfants, disons, la littératie sur la question du crédit, de l'argent, comment résister aux gangs, comment ne pas tomber dans les sectes, etc. Donc, il y a énormément de sujets pour faire de nos élèves de bons citoyens, des citoyens avertis de toutes les choses qui, de la démocratie, de toutes les choses de la citoyenneté. Et donc, moi, je disais, ben, remplaçons ce cours-là, qui est beaucoup trop chargé en religion, entre autres critiques qu'on peut lui adresser, par des compétences de citoyenneté qu'on veut qu'un Québécois de 18 ans ait au moment d'entrer sur le marché du travail puis sur le marché de la citoyenneté.
Idée qui a été reprise par la CAQ, on l'a vu. Thomas, j'aimerais t'entendre sur cette phrase de Paul Journet dans la presse. Est-ce si insultant d'offrir à un cégepien d'apprendre à se débrouiller dans la langue officielle du Québec?
La réponse, c'est non, mais Paul Journet est en train d'attribuer à la loi 96 ce motif seul pour le résumer. Or, ce n'est pas le cas. À mon point de vue, il est beaucoup plus juste de voir la loi 96 comme une autre manière de François Legault de renforcer sa base d'anciens péquistes comme lui. Lui, il ne veut surtout pas perdre une partie de cette base et sa manière de s'y prendre, c'est avec la loi 96 et l'instrument contondant qui est Simon-Jolin Barrette. Le projet de loi en question donne des pouvoirs exorbitants de fouilles et de saisies qui n'existe dans aucune autre loi au Québec où on a extrait la capacité d'avoir la charte des droits en utilisant la clause non-obstant. On enlève l'égalité de français et anglais devant les tribunaux, chose garantie autant au Manitoba qu'ici qu'au Nouveau-Brunswick, et ça compromet la viabilité de tout le système judiciaire parce qu'il y a beaucoup de décisions qui vont être rendues, qui vont casser ce qui a été fait ici. Donc le projet de loi va beaucoup plus loin que de parler de cégep, et il faut le lire, le projet de loi. Chose que je fais, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans le dossier linguistique, autant au Québec, autant du côté du Conseil de la langue française, où j'ai passé plus de temps que chez Alliance Québec, mais j'ai fait les deux, donc j'ai de l'empathie, puis de nature et de famille, je regarde les deux côtés, je les comprends. Mais je sais la différence entre quelqu'un qui veut du bien. Le projet de loi 101, à l'époque, visait à faire du français la langue normale du commerce et des affaires, de l'administration publique, et ainsi de suite. Et il y avait une adhésion sociale très large. Mais lorsque ça venait dire que tu ne pouvais pas ajouter une version dans une autre langue sur une pancarte, ça a été cassé parce que ça brimait la liberté d'expression. Quelqu'un qui a contesté cet aspect-là de la loi 101 n'était pas contre le fait du français. J'ai écrit, Richard, laisse-moi juste lire, parce que ça fait une couple de jours, je suis la tête de Turc dans ces débats-là. J'ai écrit
Mais il faut aussi laisser Jean-François parler, là, Thomas, là, quand même. Là. Je veux dire, Jean-François doit te parler aussi. Là. Jean-François, Paul Journet qui dit « Est-ce si insultant d'offrir un cégepien d'apprendre à se débrouiller dans la langue officielle du Québec? » C'est parce qu'on a l'impression, Jean-François, que oui, la loi est perfectible. Oui, il y a des détails qu'il faut changer, mais on a l'impression que de la part de la communauté anglophone, c'est une fin de non-recevoir.
Ouais, le problème, c'est que, puis je comprends tout à fait les arguments de Tom, puis effectivement, il y a plein de choses dans la loi, puis on peut en critiquer certains. Moi, ce que je critique principalement dans la loi, c'est que, comme l'ont dit les démographes, Marc Termotte et d'autres, cette loi-là ne va pas assez loin pour enrayer le déclin du français. Moi, je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas assez... par exemple, toute la question de l'immigration francophone n'est pas abordée du tout, si on touche pas à cet aspect-là. Quoi qu'on fasse par ailleurs, on n'arrivera pas à renverser le déclin du français. Bon, alors, cela dit, c'est sûr que dans la stratégie d'adopter une loi en se demandant quelle sera la réaction des anglophones, ben, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, la réaction est maximaliste. Et Marlene Jennings, elle représente le principal lobby anglophone, elle est contre la totalité de la loi, même s'il n'y avait pas la clause dérogatoire, elle est contre le plafonnement au cégep qui plafonne les inscriptions au cégep anglophone à son niveau et le double de la présence de la communauté anglophone. Alors, moi, je dis, écoutez, ça ne sert à rien d'essayer de savoir à quoi les anglophones vont dire oui. Ils vont dire non à tout. Alors, même si certains points sont tout à fait légitimes, l'aspect maximaliste de la réaction anglophone, comme c'était le cas à la loi 101 d'ailleurs, fait en sorte que le dialogue ne semble pas possible.
Et Tom, est-ce que tu trouves que justement les anglophones, oui, ils peuvent critiquer la loi 96, même les défenseurs de la loi disent qu'il y a un emmerdement bureaucratique, comme tu le dis, mais on dirait que leur réaction est tellement à fleur de peau, tellement grosse qu'ils se tirent un peu dans le pied. Qu'est-ce que tu en penses, Tom?
La communauté est tannée d'être les têtes de Turcs, les boucs émissaires de François Legault et de Simon-Jolin Barrette qui jouent un jeu politique pour renforcer leur base d'anciens péquistes qu'ils ont attirés la dernière fois et qui veulent garder cette fois-ci. Va dans la communauté, je t'invite, je vais le faire avec toi, je vais le faire comme bénévole. Tu vas choisir le cégep, tu vas amener un camera crew avec nous autres, là. Tu vas amener un équipage de caméraman et tu vas choisir les enfants. Et tu vas les interviewer un par un et tu vas constater une chose. Les jeunes anglophones qui vont au cégep en anglais parlent français. Mais c'est pas ça le jeu de Legault. Le jeu de Legault est tout autre. Et quand des gens de bonne foi cherchent une solution qui respecte la primauté du français, on est capable de le trouver. J'ai écrit le projet de loi pour Claude Ryan, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, 30 ans plus tard, qui prévoit que tous les affichages, les grandes pancartes le long des autoroutes et ainsi de suite, le grand affichage, doit demeurer unilingue français, même si techniquement et théoriquement, ça va à l'encontre de la décision de la Cour suprême dans Brown Shoes. Et j'ai convaincu Ryan et le sous-ministre de la Justice à l'époque qu'on pouvait le faire. John Parizella a pris la balle au bon. Il a convaincu Bourassa de le faire comme ça. Et ça marche. Donc, quand tu roules sur l'autoroute au Québec, le paysage linguistique est demeuré unilingue français. Et on a pu ajouter, avec prédominance du français, une version dans une autre langue. C'est ça, trouver des solutions de bonne foi et qui collent et qui respectent les droits des uns et des autres. Legault ici et son Simon-Jolin Barrette. Jolin Barrette est un apprenti sorcier qui regarde ce qui s'est fait par le passé, qui essaie de se draper avec les vêtements du sorcier, des gens dignes et intègres et complets, comme Claude Ryan, comme Camille Laurent, et ce type-là n'a tout simplement pas l'expérience ni la culture générale pour apprécier tout le tort qu'il est en train de faire avec ce projet de loi, qui sera battu en brèche.
En terminant, Jean-François, la coroner concernant ce qui s'est passé dans les CHSLD, finalement, elle aide Marguerite Blais, là. Elle est très gentille envers Marguerite Blais.
Et ça, c'est extrêmement étonnant parce que c'est comme si la coroner n'écoutait que ce que Mme Blais a dit devant elle et ne l'avait pas mis en contradiction avec ce que Mme Blais a dit avant dans sa fameuse entrevue à enquête et a dit après dans son entrevue aux trois journalistes de la presse qui ont écrit cet excellent bouquin sur la question des CHSLD. Alors, elle dit, bon, devant moi, elle m'a aidé et elle a été crédible. Oui, mais pas devant vous. Elle a dit beaucoup plus de choses qui vous auraient aidé à mieux comprendre. Deuxièmement, évidemment, madame, moi, j'avais écrit au moment de la fin de son enquête. Non, madame la coroner, s'il vous plaît, continuez votre enquête. Interviewez les gens de la cellule de crise du premier ministre et le premier ministre lui-même pour qu'ils nous expliquent pourquoi, lorsqu'il y avait deux versions devant eux, celle du sous-ministre disant « tout va bien dans les CHSLD » et la version contraire de Mme Blais et sa chef de cabinet qui disait « non, ça va pas bien, il faut agir », pourquoi vous avez cru le premier et pas le deuxième? Parce que si vous auriez cru ces deux femmes-là, vous auriez pu sauver des vies. Alors, elle n'a pas fait ce travail-là qu'elle aurait pu faire. Et là, elle dit, bon, ben, c'est bien, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de faire de commission d'enquête. Et vous allez obliger Tom Mulcair à payer une bouteille de vin à Jean-François.
Alors, Tom...
Ça, c'est vrai. Tom. Parlant des vendredis, je pense qu'on savrait le champagne autour de Legault hier. Je me demandais qui avait coulé le rapport du coroner, mais... J'ai comme l'impression qu'il y avait peut-être une version hâtive qui a circulé dans les officines et que c'est eux autres qui l'ont coulé tellement que c'était bon pour Legault. Il y a quelques affaires là-dedans. Bon, on trouve subalterne quelque part, donc pourquoi pas la personne responsable du CIUS de l'Ouest de l'île, sur qui tombe beaucoup de l'opprobre de la coroner Kamel. Par ailleurs, elle donne une indication que le Collège des médecins devrait s'inviter dans la fête en regardant le comportement déontologique ou pas des médecins qui ont fait du télétravail plutôt que d'aller voir leurs patients. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des poursuites devant les comités disciplinaires du Collège des médecins. Mais largement, la responsabilité politique existe, puis Jean-François a raison. La piètre tentative des partis d'opposition de faiblement réclamer une enquête plus large sur la performance de la CAQ pendant la pandémie, oublie ça, et de la manière que ces partis-là, le gauche dirige vers un autre mandat majoritaire.
Effectivement, et tu as raison, c'était vendredi hier pour le gouvernement Legault qui sabrait le champagne, je suis sûr et certain. Merci à vous deux, on se reparle demain.
Salut.
Bye.
Merci. Bye. Salut.